Alors, aujourd'hui, nous sommes au musée Paul Valéry de Sète, où s'ouvre une rétrospective consacrée à Orston Groom, qu'on peut aussi connaître comme Simon Leibowitz. Bonjour, alors je ne sais pas s'il faut dire Simon ou Orston.
Bonjour, alors disons que dans le cadre de ce que je fais, en l'occurrence, c'est une rétrospective de peinture, donc en tant que peintre, je suis bien Groom. Donc c'est le nom de code que j'ai pris en entrant en vocation il y a une vingtaine d'années de cela, quand le civil Leibowitz a disparu lors d'un accident cérébral duquel je me suis plutôt très bien tiré, mais affligé d'amnésie et d'épilepsie. C'est l'argument contradictoire du titre de cette exposition, qui s'intitule « Volcan du coma », dont la formule n'est pas de moi, mais d'un poète avec qui j'ai une correspondance depuis quelques années, qui s'appelle Boris Voloviets. Disons que l'argument biographique de ces deux pôles cardinaux qui sont ceux de la mémoire et de l'épilepsie sont très manifestement pris en charge par ma manière de peindre, qui est en effet très saturée et traversée de réminiscences historiques jusqu'à la préhistoire. Mais c'est aussi une façon, et c'est là toute l'opération de mon travail et de mon attitude par rapport au travail, de dépasser l'identité personnelle pour troquer les mémoires intimes ou individuelles pour la mémoire du monde.
À cet égard, vous donnez des dates biographiques, si je puis dire, qui sont affichées au début de l'exposition et qui ne concernent pas votre biographie personnelle.
Eh bien, disons que en tant que peintre, ma biographie, elle démarre dans ce qui est indiqué, en effet, au 6 mètres de l'exposition, en 070, à la destruction du Second Temple, suivie par la destruction de Pompéi, la querelle des images et des choses comme ça, mais également la découverte des grottes pariétales d'Altamira, l'insurrection du ghetto de Varsovie. Et en ce qui concerne les années lors desquelles j'ai en effet existé, les deux événements les plus significatifs de mon enfance, en tout cas de ce dont je me souviens nettement, qui sont Tchernobyl et la chute du mur de Berlin. Après quoi la vocation de peinture a pris le relais au bénéfice de cette sortie de la mémoire personnelle. J'ai en effet comme conviction et cheval de bataille que l'art et la peinture, en l'occurrence, est tout sauf de l'expression personnelle. Et tout sauf une illustration de certaines données individuelles, de points de vue, de quant à soi, mais au contraire, une façon de se brancher sur un phénomène naturel au même titre que le soleil ne brille pour personne individuellement, c'est-à-dire d'un rapport au monde qui est absolument commun. C'est donc l'entreprise qui est proposée par ce que je fais depuis 20 ans et ce que la peinture fait depuis au minimum 40 000 ans. Sachant que j'en ai 40, s'il y a un patron dans la pièce, c'est bien une et ce n'est pas moi.
Est-ce qu'on pourrait dire que, dans ce que vous dites, là, c'est, bon, j'entends, l'artiste n'est que celui ou celle par lequel une œuvre va se produire, mais qui est en dehors de lui. Un peu Michel Foucault qui disait quand il prenait la parole, qu'il souhaitait être le point d'apparition et éventuellement de disparition du discours qu'il allait tenir. Mais le discours existait en dehors de lui. L'œuvre existe, ou l'art existe en dehors de l'artiste, alors.
Eh ben absolument, j'irai même plus loin que ça. Figurez-vous que le monde existe. Et le monde existe, l'art existe, et l'art existe en tant que, et c'est ma seule définition, en tant que rapport au monde. C'est en ça que c'est un phénomène qui n'est absolument pas particulier ou circonscrit aux gens qui font, disons, dans l'esthétique, qui font des sculptures, des peintures ou que sais-je. N'importe quel animal qui joue, n'importe quel cheval qui s'ébroue au sol, ou est artiste, ou en tout cas fait et régi par cette nécessité de jeu et de rapport au monde, qui est, comme je le répète, ma seule définition de l'art, en tout cas celle que j'essaie de mener en peinture, avec cette manière qui m'est tombée dessus, et avec laquelle j'essaie de ménager la façon la plus à la fois intime et hermétique, cryptique, parce qu'en effet c'est une peinture cryptique, mais à décrypter, qui donne beaucoup à lire au sens même littéraire, sachant que j'ai un rapport littéraire assez fourni dans ma façon de composer et d'évaluer. Je commence à me perdre un petit peu dans mes propres imbroglios.
Alors, je vais vous proposer quelque chose peut-être pour remettre en piste. Vous avez beaucoup évoqué lors de la visite de presse la place du langage et du déchiffrage et de l'archéologie du langage. Hein, avec ces mots qui disent des choses, mais qu'on n'entend plus. Il faut aller chercher, il faut aller farfouiller dans les langues, si je puis dire, pour découvrir ce que disent les mots, et puis se laisser porter par ce qu'ils suggèrent aussi. Et du coup, votre peinture est peut-être plus que d'habitude, qu'avec d'autres artistes, est vraiment un langage, mais un langage à déchiffrer.
Bah, disons que c'est une peinture qui est fortement nourrie disons, par la pensée et la manière de procéder talmudique, c'est-à-dire par enquête, étude, interprétation sans cesse remise, et donc un rapport à ce qu'on appelle le texte, c'est-à-dire la fabrique même du sens et du monde par le texte. En ce qui concerne spécifiquement le phénomène de la langue et du langage, je vous rappellerai cette phrase de Chaim Soutin, extraordinaire, qui disait « Je ne parle aucune langue ». De la même façon, Jackson Pollock disait « Je suis la nature ». Et il se trouve que la même phrase et ces mots exacts ont également été prononcés par Coco le singe, ce chimpanzé à qui on avait appris la langue des signes, et qui a décrété, comme Jackson Pollock, « Je suis la nature ». Ce qu'il faut bien entendre comme une phrase un aveu d'humilité radicale. Cette humilité, serait peut-être en effet l'en-deçà du langage, ou alors sa fonction même. Dans l'exposition Volcan du Coma, actuellement, une grande série est proposée qui est dédiée à Freud et Moïse, dans lesquelles ces questions-là sont mises en scène selon, selon deux glottes, je dirais. D'une part, que l'on pourrait peut-être dire comme ça, qu'il y a une forme de guerre entre le buccal et l'oral. Parce que vous savez que la bouche a, en tout cas, ces deux fonctions distinctes. Freud étant décédé d'un cancer de la bouche, tout patriarche de la cure par la parole qu'il était, après avoir dédié son livre testament à Moïse, qui était le prophète bègue. Les spectateurs découvriront également que toute cette série qui récapitule 5000 ans d'histoire et 5000 ans d'histoire de l'art et des images frappées d'interdit se révèle être une entreprise pour sauver par un jeu de mots assez abusé, voire tiré par les cheveux, pour sauver un mot En l'occurrence de la langue allemande, un mot dont l'usage a été salopé et qui est depuis resté enferré dans le tabou. Donc l'entreprise de la peinture est également, je pense, de pouvoir prendre en charge et réguler toutes les choses du monde, les pires atrocités comme une simple pomme, ou même certains mots, certaines langues, pour leur redonner une valeur d'usage commune. Et c'est en ça que je considère travailler pour une puissance, la peinture, qui est par définition impersonnelle.